Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast Consultez-moi. Je m'appelle Marianne, spécialiste de l'accompagnement des entreprises et des organismes de formation. Vous retrouverez régulièrement des interviews, de la réglementation, des partages, des feedbacks et de la veille. Bien entendu, avec de la convivialité, de l'authenticité, du partage et de la bonne humeur. N'hésitez pas à enregistrer ce podcast, à le sauvegarder, à le partager auprès de votre réseau. Et je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va échanger sur le sujet être référent handicap au sein d'une entreprise ou d'un organisme de formation. Et je suis ravie aujourd'hui de partager ce podcast avec Benoît Véraud, qui est expert dans ce domaine. Merci du coup pour sa présence et le partage qu'il va effectuer ensuite. Donc, bonjour Benoît, j'espère que tu vas bien et je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs en quelques mots.
En quelques mots. Bonjour Marianne.
Alors, en plusieurs mots, tu as le droit.
En quelques mots, mais je parle beaucoup, c'est terrible. Alors, en quelques mots, qui je suis, Benoît Véraud, ça fait 20 ans que j'accompagne les structures, qu'elles soient privées ou publiques, sur le sujet, la notion de handicap. J'aime bien parler de la notion de handicap, parce qu'on met beaucoup de choses derrière le mot. On ne sait pas vraiment, en fait, pourquoi il fait tant d'appels à des notions d'exclusion ou de rejet. Et pourtant, il y a des explications. Donc, j'ai été glané un petit peu dans l'histoire, sur l'économie, sur la Grande Guerre, sur l'évolution des... du cadre légal autour de l'accueil des déficiences. Et donc, je suis rentré un petit peu par hasard, en fait, dans cette histoire-là, en 2001. On m'a demandé de faire la promotion de la semaine du handicap, qui m'a foutu une trouille bleue, mais je n'en avais pas conscience sur le moment. Mais comme je suis curieux, en fait, j'ai fini par rencontrer des personnes qui m'ont rassuré, m'ont expliqué. Et petit à petit, je me suis mis à accompagner mes clients. Je me compte, en fait, il y avait une évolution parce que j'avais souvent pas les réponses à leurs questions. Donc, il me fallait aller chercher, investir un peu plus. Et donc, j'ai découvert le réseau associatif, le réseau institutionnel. J'ai beaucoup travaillé avec eux et ça m'a donné donc beaucoup de matière et de réponses pour rassurer, notamment les employeurs que je rencontrais. Et donc, je suis originaire de Lille, même si aujourd'hui j'habite Bordeaux. Et entre-temps, j'ai été muté sur Toulouse. J'ai découvert l'ADAPT, qui a développé la semaine de l'emploi des personnes handicapées en 1997, a aussi développé le réseau des réussites qui accompagne les personnes en situation de handicap au retour à l'emploi. Et Dominique Ledoux, avec qui j'étais en contact à l'époque, m'avait bien fait insister sur « on n'assiste pas, on accompagne ». Et quand je suis arrivé donc sur Toulouse, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de référent pour l'ADAP sur la zone. Et donc, j'ai proposé mes compétences. Bien sûr, Dominique m'a dit oui. Et donc, j'ai commencé à accompagner en fait, des personnes en situation de handicap. Là aussi, j'ai appris énormément à leur contact, à découvrir déjà leur espace et leur regard par rapport à leur situation, par rapport à leur... brusque changement dans leur vie, et ainsi de suite. Moi, mon rôle consistait essentiellement à l'époque plus à les écouter et à reformuler pour leur redonner justement un miroir qui soit moins déformant que celui qu'ils avaient. Et on a pu co-construire avec les personnes que j'accompagnais, mais aussi avec mes clients, puisque j'étais responsable de deux agences sur Toulouse et Bordeaux, donc dans un site emploi. Et donc, j'étais en contact avec des RH, avec des directeurs d'entreprise. Et donc, petit à petit, justement, j'ai appris à rassurer ces différents contacts et puis accompagner les personnes qui m'étaient confiées par l'ADAPT dans leur chemin de reconstruction et notamment d'orientation professionnelle. On a eu de très, très belles réussites. Ça a été d'énormes marqueurs pour moi. Chaque cas est différent parce qu'on est tous différents. Et puis, petit à petit, c'est mon propre boss qui m'a dit « Mais Benoît, c'est quand que tu crées ta boîte ?» Je n'avais absolument pas l'idée de créer ma boîte à l'époque. On était en 2004. J'ai dit « Bah non, c'est bien. J'ai pas envie de... » Et lui a insisté, il m'a dit « Benoît, je crois que tu vas te retrouver vite à l'étroit, vu tout ce que tu fais déjà au niveau d'email job pour le handicap. Je sens, moi, que tu vas avoir envie de partir. » surtout, c'est qu'ils me disent quand. Alors, j'avais aucunement envie de partir à l'époque, mais l'idée qui m'avait planté dans le cerveau a commencé à germer. Effectivement, un projet a commencé à fleurir. Et j'en ai donc parlé à Dominique, le douce, chez l'ADAPT, qui m'a dit, Benoît, tu vas te prendre des murs dans tous les sens. Tu as 30 en avance par rapport à ce qui est attendu, mais il faut absolument que tu t'y mettes. Et donc, j'ai pris le pari de créer ma structure en 2005, en mars 2005, donc juste un mois après la mise en application de la loi sur l'égalité des chances. Et ma structure avait pour objet d'accompagner justement sur le recrutement, qui était le mal exprimé par les entreprises. Alors, le mal, c'est la difficulté, le manque, et donc d'où on dit recrute. Mais ce que je leur expliquais, c'est qu'au niveau du recrutement, pour moi, ce n'est qu'une phase qui peut se répéter, mais tant que le socle n'y est pas, le recrutement sera foireux. Et donc, je leur ai parlé de maintien dans l'emploi, je leur ai parlé de travail avec le milieu protégé, de formation, de sensibilisation, de cohérence par rapport à l'ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé, mais sans l'avoir prévu, accompagner les grands comptes, mais essentiellement les banques d'ailleurs à l'époque, les grands comptes, puis après aussi, que ce soit privé ou public, tout type de structure sur la construction d'une politique handicap en préalable au recrutement. Capgemini, qui est resté pour moi... pendant 5 ans de collaboration, d'une richesse absolue en termes de mise en œuvre, de retour, d'analyse, de développement, d'imprégnation justement de cette notion de ce savoir-faire au sein des équipes. Après, s'en est suivi 6 ans avec la SNCF. Donc là, j'ai commencé par un audit, ensuite... sur les propositions que j'ai faites à l'issue de l'audit, il y a mon bâton de maréchal, mon plaisir le plus réel aujourd'hui dans tout ce que j'ai pu faire, c'est la mise en place du dispositif Entrain, HANTRAIN. C'est un dispositif en fait de recrutement par l'alternance sur les profils récurrents de la SNCF. Alors jusque-là, rien de nouveau, enfin, quoi qu'à l'époque, si un peu. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'ai demandé à la SNCF comme condition de départ de s'engager à recruter les personnes qui avaient réussi leur diplôme. Et à ma connaissance, encore aujourd'hui, ce sont les seuls à le faire. Alors, on avait commencé avec une promo de 6 sur la première année, en 2013. Et quand on a arrêté de travailler ensemble en 2017, c'était 40 personnes par an, en fait, qui étaient intégrées. Donc ça, c'est un très beau parcours. Et la SNCF a été aussi l'initiatrice d'autre chose. Comme j'avais audité l'ensemble de la mission handicap, elle m'a demandé de former ceux qui rentraient dans la mission handicap chaque année, puisqu'il y avait un roulement d'une dizaine de personnes chaque année. Et donc, chaque année, je me suis mis à former et accompagner les correspondants régionaux, les référents nationaux de la mission handicap, pour leur permettre justement de se rassurer sur la prise de poste et puis prendre de l'assurance aussi dans leur fonction, dans le démarrage de leur mission. Et ça m'a donné plein d'idées derrière. Déjà, j'ai pris un pied phénoménal à faire de la formation, encore plus que ce que je faisais jusque-là. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je transforme, que je réadapte effectivement mon activité. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai glissé de plus en plus. Alors, je fais toujours du conseil, je fais toujours de l'accompagnement. Mais je me suis vraiment, à partir de 2017, surtout développé autour de la formation, notamment d'un programme de formation que je veux ambitieux, c'est celui du manager inclusif, qui va allier deux notions, l'intelligence émotionnelle et le handicap, la notion de handicap, pour construire un projet qui répond réellement à un besoin, à un manque opérationnel dans les services. Donc ça, c'est pas une formation... légère, hein, puisque c'est un accompagnement de minimum 6 mois, voire 1 an, qui va permettre donc de travailler sur ces sujets-là et de co-construire avec les personnes qui font partie du groupe, que ce soit en intra ou en inter, mais de co-construire en fait sur des projets qui ont du sens par rapport à l'opérationnel, par rapport au handicap et par rapport justement à la captation et au déploiement justement de ces actions concrètes et réelles. Et puis petit à petit, est arrivé le Covid. Et juste au moment où on m'avait demandé, avec le changement de la loi en 2018, de faire une formation sur le référent handicap. Donc, je les accompagne depuis près de 20 ans dans leur mission. Donc oui, ça m'a paru simple. Donc j'ai fait une première formation en ligne en mai 2020. Alors ça, je procrastinais à mort, hein, très honnêtement, avant le Covid. Bon, là, l'occasion appelle le larron. Et puis, comme je suis quelqu'un, comme je te disais, très curieux, là, pour le coup, j'ai été nourri en termes d'outils, de méthodes, de savoir-être, faire, machin, et ainsi de suite. L'animation à distance n'a rien à voir avec l'animation en présentiel, mais pour autant, c'est tout aussi riche. Et puis, il y a plein de joujoux en plus, hein, d'ailleurs. On a plein de petits outils digitaux pour pouvoir animer, pour pouvoir créer aussi des contenus. Et donc, cette première formation, elle a duré 10 heures. Et là, j'ai senti d'excellents retours, mais beaucoup de manques. Je devais approfondir certaines notions, définir des termes, parce qu'on a beaucoup d'acronymes dans le monde du handicap, même avec des personnes qui sont censées être sensibilisées à la chose. Manque un peu de précision sur les choses, justement. Et donc, de 10 heures, là, j'ai fait passer à basculer ma formation à 25 heures. Et au lieu de la concentrer sur une semaine, je l'ai étalée sur 2 mois. Donc, à raison de 2 heures et demie, en fait, par semaine. Et où je fais, en fait, travailler, là encore, tous mes participants à la découverte du handicap, la notion du handicap. Mais préalablement, je leur parle aussi d'intelligence émotionnelle, parce que pour moi, c'est essentiel pouvoir comprendre déjà la gestion, une introduction à la gestion des émotions et une introduction aussi à ce qu'est le DISC, qui est un très bon outil en termes d'appréciation, d'analyse de qui on est soi d'abord et surtout, pour après avoir plus de sérénité pour aller vers les autres. Et pour moi, le référent handicap a vraiment cette fonction transversale au niveau de la structure, qu'elle soit privée ou publique, de coordonner en fait des actions qui vont être au bénéfice de toutes et de tous. Capacité à pouvoir être réellement dans l'écoute, et ce sont les deux piliers que j'exploite pendant la formation, que je pousse, l'écoute donc active et le dialogue qui en découle. Et c'est que de ces deux éléments-là, on peut trouver justement des solutions particulières qui correspondent vraiment à chaque situation. Et alors, tout ce que j'adore faire, c'est justement cette co-construction, puisque chacun peut avoir des projets complètement différents. Et justement, c'est le jeu. C'est d'amener, en fait, à être suffisamment... chaque participant devra, à un moment donné, présenter son plan d'action à d'autres participants. L'objectif étant que, un, ils prennent de l'assurance par rapport à ce qu'il a imaginé, mais surtout qu'il y ait un retour de ceux qui l'écoutent pour affiner sa présentation, découvrir de nouvelles possibilités grâce au retour qu'on lui fait, et donc du coup d'approfondir justement son idée et de la développer de manière à ce qu'elle soit la plus réaliste possible, cohérente avec du sens. Et donc c'est ce qui valide en fait le label que je délivre autour de cette formation. Voilà, voilà. Bon, je t'avais dit, je n'allais pas faire court.
Non, mais c'est hyper riche. En tout cas, je te remercie parce que c'est très riche. Voilà, c'est vraiment agréable de tout entendre, de tout partager avec toi. Donc, je te remercie pour tout ce que tu délivres et tout ce que tu partages. Et en tout cas, juste déjà, le parcours, quoi. Donc, c'est très chouette à entendre. Et je pense que tout le monde, toutes les personnes qui vont écouter le podcast seront ravies également de l'écouter. Donc, en tout cas, un grand merci. Par rapport justement au référent handicap, première question que j'aurais envie de te poser, c'est en quoi c'est important d'avoir un référent handicap formé et sensibilisé au sein d'une entreprise, d'un organisme de formation, même si on sait que c'est pas forcément... Alors, c'est conseillé avec les labels qualité Calliope d'avoir un référent, mais c'est pas forcément en sens obligatoire pour toutes les entreprises. Donc là, je reste vraiment... en assez large, en quoi c'est important vraiment que la personne soit formée et sensibilisée?
Alors déjà, il y a un premier sujet, c'est la formation des référents handicap. Parce que bien souvent, oui, la loi l'oblige pour les entreprises de plus de 250 salariés ou pour tout ce qui est formation dans ce qui est dans le cadre des CFA. C'est vivement conseillé aussi pour tout organisme de formation qui vise Calliope, puisque tous les champs et les indicateurs spécifiés par Calliope demandent une réponse dans le champ du handicap. Malheureusement, ce que l'on voit se démultiplier sont des formations ultra techniques ou très spécifiques sur les déficiences, sans forcément de rapport avec la matière, c'est-à-dire en fait ce qui donne du sens à l'action et à la production, que ce soit une entreprise ou un centre de formation. Et ce que j'ai comme retour depuis 2 ans que les formations sont dispensées, notamment par la GFIP ou d'autres, c'est que j'ai eu une formation, elle a duré une journée, et what else, je ne sais pas quoi faire avec, parce que je ne vois pas comment je peux l'appliquer dans mon quotidien. Et là, je reviens sur ce que j'ai évoqué, c'est moi, la mienne, en fait, je l'ai conçue... Bien sûr, j'apporte du contenu, mais ce n'est pas mon objectif et c'est ce que j'exprime à chaque participant quand il intègre ma formation, c'est eux qui vont faire. C'est-à-dire que moi, je vais être là en guide, entre guillemets, en complément par rapport à l'aspect justement que, sur lequel j'ai plus d'expérience. Mais l'idée, c'est de partir d'eux, de leur vécu. Alors qu'on soit centre de formation, que l'on soit juste formateur en indépendant, que l'on soit une entreprise avec 20 salariés ou moins, qu'on soit un grand compte, enfin, toute structure peut accueillir le handicap, mais il faut surtout garder en fait de vouloir faire en plus. Or, bien souvent, c'est le problème. Dès qu'on parle handicap, déjà le mot, on n'est pas bien à l'aise avec ça, hein, et ça s'explique par tout ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, l'évolution de la société, les impacts que notre société a vécu avec des notions comme le taylorisme ou les retours du premier conflit mondial, qui ont eu énormément de résonance en fait sur cette représentation, sur les mots qui ont été utilisés et qui sont venus en fait s'ajouter les uns derrière les autres. Quand le mot pour la première fois apparaît dans la loi en 1957, il apparaît dans la loi en 1957, mais il était déjà utilisé bien avant, mais avec des connotations déjà pour le moins un peu pénibles. Et aujourd'hui, on a hérité de tout ça. Si je parle par exemple de la lourdeur du handicap, ça vient effectivement du mot en lui-même au XVIIIe siècle, où on a voulu rééquilibrer les chances dans les paris épiques. Et que les chevaux les plus rapides, en fait, comme ils gagnaient toujours, c'est embêtant parce que du coup, on était sûr que c'était eux qui gagnaient. Donc, il fallait rééquilibrer les chances, mais en défaveur. C'est-à-dire, mieux t'es, plus on te met du poids sur la selle. Et donc, du coup, ça redonnait effectivement des chances. Et donc, la lourdeur du handicap, elle a trouvé sa source aussi par rapport à ça. C'est aussi toutes les représentations qu'on peut en avoir autour de... C'est pour ça que je parle de notion d'handicap et que je ne veux pas m'attacher aux déficiences. C'est important de pouvoir les connaître, mais ce n'est pas l'essentiel, puisque pour moi, l'essentiel, il est dans la personne. Et quand on parle de handicap, j'entends l'expression « handicapé », moi, ça ne me va pas. Parce que « handicapé », c'est on confond les déficiences et la personne. C'est un peu mieux avec « personne handicapée ». Là, on commence effectivement à dissocier. Ça reste quand même sacrément marqué. Et on a vraiment cette idée de « pas capable », donc ça qui est issu du taylorisme notamment, qui a mis une norme au travail. Et je préférerais de loin ce qu'a développé l'OMS en 2001 et qui a été inscrit dans la loi de 2005, c'est de traiter l'environnement et donc la situation de handicap. Et donc, on a bel et bien en fait, des personnes qui sont en situation de handicap. Et alors, ce que l'on ne sait pas forcément, c'est en quantité ce que ça représente. En quantité ce que ça représente, c'est que quand on a un groupe de 10 personnes, il y en a au moins 2 qui sont en situation de handicap statistiquement. Et quand on va dans le monde du travail, c'est sur 10 personnes, c'est 2,5. Enfin, c'est difficile de les couper en deux. Hein. Mais c'est au moins 2, en fait, sur une dizaine de personnes, entre 15 et 64 ans, c'est 22% en fait, de la population active qui est en situation de handicap déclaré. On parle vraiment de ceux qui sont reconnus par la Sécu, par les MDPH, et ainsi de suite. Donc déclarés, donc reconnus, alors qu'on demande 6% de taux d'emploi. Donc là aussi, en termes d'idées, l'idée de la loi qui a engagé les entreprises non plus à avoir un objectif de 6%, mais bel et bien un minima de 6%, c'est bien. Sauf qu'on peut aussi y aller un peu plus loin, même si c'est pas... Alors là, j'entends les recruteurs me dire « Oui, de toute façon, il n'y a pas les compétences attendues, machin, compagnie. » Oui, il y aura de toute façon à faire évoluer son regard par rapport à l'existant. Donc, arrêter de chercher des moutons à 5 pattes. S'ils ont 5 ou 6 pattes, c'est qu'en fait, il y a plutôt 2 postes en fait, à pourvoir qu'un. Ça, c'est une idée. La deuxième, c'est que quand on a des difficultés de recrutement dans un secteur spécifique, il faut apprendre à être patient. Et ça, c'est vraiment l'enseignement majeur pour moi avec le handicap. Cette notion de prendre du temps, de réinvestir le temps. Alors, pourquoi être patient? Parce qu'on a une solution toute trouvée qui est l'alternance. L'alternance qui permet de faire monter en compétences sur des bases et des prérequis. Et alors, il y a un constat qui est strictement aberrant sur les bacs plus 5, par exemple. 8% des contrats d'alternance bac plus 5 poursuivent dans les structures dans lesquelles ils ont fait leur alternance en CDI. Ça, c'est un chiffre que j'ai découvert au mois de mars ou au mois d'avril. Et je trouve ça mais aberrant au possible. Et là, je ne parle même pas du handicap. Hein. Alors que l'alternance est justement l'occasion de former, bien sûr, des personnes et de les faire monter en compétences, mais en plus de les sensibiliser à la culture de l'entreprise. Et bien, c'est une chance que très peu de patrons saisissent. Alors, oui, ils la saisissent par rapport aux avantages financiers que l'alternance procure. Et d'ailleurs, on a, que ce soit au niveau de l'alternance, mais aussi des stages de manière générale, ce n'est plus des offres de stage, c'est des offres d'emploi déguisées. C'est dommage de ne pas capitaliser sur l'alternance qui, elle, a vraiment une vocation à faire monter en compétences et en expérience professionnelle, et de capitaliser dessus pour justement ben, en faire, comme j'en parlais avec Antrain, ben, on les forme, on les garde. Ils réussissent leur diplôme, on les garde et on s'engage à les garder. Et ça, peu d'entreprises, alors qu'on parle de pénurie dans le recrutement, qu'on parle de difficulté à trouver les compétences adéquates, alors on se plaint, mais en fait, il y a des solutions qui sont à disposition et qu'on ne met pas en œuvre ou qu'on ne capitalise, sur lesquelles on ne capitalise pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, le référent handicap, pour revenir à ta question, pour moi, je le vois vraiment au centre de l'entreprise, dans l'écoute et le dialogue. Hein, ce sont les deux sujets qui me passionnent pour le coup, qui va capter en fait les besoins, les manques de chacun des services et mettre du lien entre les services. Parce que là, c'est un autre travers qu'on a aussi en France, c'est que ben, il y a 8 secteurs régaliens dans l'entreprise. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais je vais donner quelques exemples. Le commercial, le marketing, recherche et développement, le financier, les RH, production, transport, logistique. Bon, je les ai quasiment tous faits, il me manque un, mais je ne sais plus lequel. On est en silo, chacun dans son coin. Et le nombre de structures, notamment plus elles sont grandes, pire c'est, le nombre de structures qui va traiter chacun dans son secteur, en fait, ben, les solutions, plutôt que de les mutualiser. Parce qu'il n'y a pas de cohésion, en fait. Et que chacun veut garder son savoir, sa maîtrise, en fait, et son budget. Et c'est dommage. Parce que pour beaucoup, notamment pour le travail avec le milieu protégé, plutôt que d'aller chercher des antennes un peu partout, on peut mutualiser, donner plus de projections et donc de régularité aussi avec les structures du milieu protégé avec lesquelles on travaille, plutôt que de faire des pics de tension par rapport à tel ou tel sujet sur tel ou tel service. On prévoit large, on prévoit sur 1 an avec différentes interventions réparties par rapport aux différents services. Ça a l'air de rien, mais en fait, le référent handicap a pour essence d'être dans l'écoute et le dialogue et de remettre une quantité de bon sens ou de sens, tout simplement, sur ce qui se pratique. On le voit trop souvent encore plus en gestion de dossiers administratifs, de réponses aux personnes en difficulté par rapport à leur situation, mais pas comme un élément qui favorise, un, l'expression, écoute, dialogue, deux, la mise en œuvre d'actions qui vont être profitables. Profitables, pas forcément immédiatement, mais elles vont être profitables financièrement. Elles vont être profitables au niveau, parce qu'il y a des aides financièrement. Elles vont être profitables dans l'efficience des services, parce que les services vont se sentir écoutés. On met des choses en place en réponse à ce qu'ils ont exprimé. Donc, il y a de la reconnaissance, donc de l'envie, de l'engagement salarié. Et tout ça, en fait, c'est le référent handicap qui, parce qu'il aura tissé un réseau interne, qu'il aura des solutions externes, qu'il aura été glané en fonction d'un plan d'action cohérent, sera donné en fait une vision complémentaire à la direction générale pour donner justement l'impulsion qui manque en termes d'action et surtout, et plus la structure est grosse, plus elle y est obligée, de pouvoir alimenter le fameux rapport RSE annuel. Parce que, en fait, le handicap, quand on y regarde bien, on fait souvent la critique hein, qu'une personne en situation de handicap est peu formée et âgée. Je ne prends que ces deux statistiques-là parce qu'elles reviennent régulièrement. Peu formée, merci à l'alternance, donc je peux effectivement compléter les connaissances, mais ces personnes, même si elles sont peu formées, elles ont une expérience professionnelle. Parce que l'autre dominante que l'on donne, c'est elles sont âgées. Âgées, d'accord, mais donc elles ont tout un cumul d'expériences soit cohérentes, soit diverses, qui leur donne des compétences transverses et qu'on peut exploiter dans une formation et donc les faire entrer dans l'alternance et les adapter à ce que l'entreprise ou la collectivité attend. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels le référent handicap pourrait être un appui pour la direction, une rentabilité à terme. Et ce que j'ai pu voir systématiquement, quasiment, c'est que lorsque l'on intègre correctement, alors là aussi, c'est notre sujet, c'est l'onboarding. L'onboarding, malheureusement en France, 82% des entreprises ne savent pas s'y prendre ou n'y pensent même pas. Mais quand on accueille quelqu'un de manière générale, et c'est là où en fait le handicap peut être vraiment un levier, quand on accueille quelqu'un, il faut y mettre les moyens et la manière. Les moyens, c'est déjà communiquer avec l'équipe avant, écouter l'équipe, mettre en place ben, ce que l'équipe remonte. Si on voit qu'il y a une déficience, là, pour le coup, sur la notion d'accueil des différences, ben, les former, leur donner ce qui leur manque pour les rassurer. Et puis enfin, ben, quand la personne arrive, on a prévu un tuteur, on a prévu un environnement, on a prévu un espace de travail, on a prévu une montée en puissance de la personne parce qu'elle sera accompagnée, pas seule, et elle saura ce qu'elle aura à faire. Et là, ce ne sont que quelques pistes de l'onboarding, mais c'est parce que c'est un mot qui vient à de plus en plus à la mode. Mais c'est juste l'accueil en fait de l'humain, l'accueil des différences. Et c'est là où en fait le handicap est vraiment un sujet qui va permettre bah, de travailler sur le champ des seniors, l'égalité homme-femme, l'environnement par le milieu protégé, en ayant des situations de production qui sont écologiques et qui sont effectives. Qui sont dans les règles de l'art. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, qualité de vie au travail, oh, j'ai oublié l'essentiel. On adapte effectivement l'environnement de travail pour une personne en particulier. C'est aussi le moyen d'investir auprès de l'équipe s'il y a d'autres besoins. Alors, ils n'auront pas forcément une RQTH, mais tant qu'à investir bah, sur un fauteuil pour une personne parce qu'il y a un besoin et que c'est financé, bah, pourquoi pas en remettre un tout petit peu plus pour les autres qui auraient effectivement des difficultés à force de rester tout le temps assis au même bureau avec une chaise qui est inadéquate. C'est une pensée de bon sens, vraiment de logique. Certes, il y aura des investissements à faire en parallèle, mais c'est vraiment le terme d'investissement qu'il s'agit d'employer. Ce n'est pas une dépense. C'est qu'une personne qui se sent mieux au travail, elle est beaucoup plus efficace. Et ce que j'ai pu voir, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, une personne en situation de handicap qui a accepté cette situation, elle a une capacité à se comprendre, identifier ses besoins, ses limites, et à les exprimer sans peur. Mais alors, ça, c'est pour elle. Mais quand elle est en collectif de travail, elle va agir de même sur d'autres sujets. Et comme il n'y a plus de peur, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de position, il y a du travail ensemble. Et le nombre de fois où j'ai eu le constat des managers, des DRH, qui me disaient suite à des recrutements, parce que je faisais des suivis réguliers, on est épaté par l'efficience. On est épaté par l'efficience du service depuis que cette personne-là est arrivée. Ce n'est pas dû juste à la personne, c'est parce que tout a été mis en œuvre au préalable. C'est parce que tout s'est coordonné correctement. Et c'est parce que chacun a retrouvé un lien, un dialogue, une écoute, que bah, plutôt que de passer trois plombes à faire un sujet, bah, en 3 minutes, c'est traité. Et c'est là où le temps investi qu'on a eu au départ, il se retrouve après dans ce qui est pratiqué. Alors même si là, je fais une caricature énorme, mais c'est bel et bien ce qui se passe au quotidien. Ouais, j'ai encore parlé beaucoup.
Non, 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 c'est hyper intéressant. En plus, tu as été sur l'autre question que j'aurais envie de te poser, justement, quelle réflexion as-tu envie d'apporter à nos auditeurs? Mais voilà, là, tu y as répondu. Alors, peut-être que tu auras aussi des choses à ajouter, mais là, j'ai envie de partager aussi. C'est hyper riche et intéressant tout ce que tu partages parce que c'est quelque chose vraiment qu'on reçoit, qu'on ressent, qu'on soit salarié, qu'on soit dirigeant. C'est des sujets qui sont hyper importants dans la vie de l'entreprise, hein. Que ce soit une entreprise, un organisme de formation, peu importe qu'on soit obligé d'avoir un référent handicap ou non, c'est des sujets qui sont hyper importants. Et surtout quand on voit là en ce moment les choses aussi telles que la grande démission, comme on est en train de parler, ben, c'est des sujets forts où plus les salariés et plus les personnes intervenant, que ce soit des indépendants, des freelances, etc., ben, c'est important de se sentir vraiment à l'aise, bien, dans un bon climat de travail également, parce que ben, ça permet aussi de rester dans de bonnes conditions, qu'on soit en situation de handicap ou non. Je trouve que ça rejoint tout. Et je remarque aussi dans les accompagnements que je fais, principalement sur Calliope, et même tout ce qui est certification, c'est vraiment un point très important, justement, le côté d'accueil des personnes en situation de handicap. Et moi, j'aime vraiment être axée sur la situation de handicap parce que c'est pas, ça reste une personne, c'est une personne, c'est pas. Pas un handicap qu'on a en face, c'est vraiment une personne qui a une situation de handicap et ça dépend. À certains moments, elle ne sera pas en situation de handicap parce que pour elle, c'est tout est OK et peut-être qu'elle va arriver dans un endroit où ça va la mettre en situation de handicap parce que ce n'est pas adapté. Et là, ça peut la mettre en difficulté. Et c'est vrai que je me rends compte, là, dans le partage que j'ai envie de te faire, c'est que beaucoup, quand même là, j'accompagne, on me dit, bah oui, mais c'est sûr, là, je ne peux pas accueillir parce que bah, il y a des escaliers. Et en fait, tout de suite, on pense à handicap moteur. Ou handicap mental, mais vraiment tout de suite sur des maladies psychiques un peu plus élevées, etc. Mais en fait, mais moi, je me rends compte que je les sensibilise un petit peu. Alors, à mon niveau, hein, par rapport à toi, forcément, voilà, toi, tu es vraiment expert dans le domaine. Moi, je commence vraiment à aller beaucoup plus loin. Mais voilà, de leur dire, ben non, il y a plein de possibilités. Il y a les maladies, des maladies invalidantes, des maladies invisibles, en fait. Il y a des choses. Il peut y avoir aussi ben, du surpoids. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Et même des fois, des troubles de l'attention. Moi, je sais que j'ai déjà inscrit en formation quelqu'un quand je travaillais encore en centre de formation. Bah, la personne, en fait, j'ai tout de suite rebondi. Elle avait une situation de handicap qui allait la mettre mal à l'aise à un moment dans la formation. Bon, en fait, elle n'était pas à l'aise sur une prise de parole. Voilà, il y avait des choses, ça a été suivi par un psychologue, etc. Donc, même psychiatre, tout est OK, mais il y avait vraiment quelque chose qui allait beaucoup plus loin. Et bien là, j'ai tout fait pour qu'ils se sentent à l'aise pour intégrer la formation. Et ça, c'est important. Et les personnes se sentent vraiment à l'aise et se sentent aussi soutenues, en fait, pas
D'accord, c'est
solo.
important.
Donc voilà, c'était mon partage que j'ai envie de faire parce que
Je
voilà,
vais rebondir
c'est des
dessus
sujets
d'ailleurs, parce
importants.
que tu as livré, il y a deux sujets qui sont pour moi majeurs en fait dans l'accueil de la notion de handicap. Je vais commencer par celui qui est le plus caché, c'est tout ce qui est de l'ordre du handicap mental ou psychique. Donc ça représente deux catégories, hein. Maintenant, il y a même le cognitif hein, pour le rajouter, pour faire encore plus compliqué. Au sortir de la Première Guerre mondiale, on a identifié 700 000 personnes qui étaient dites aliénées à l'époque. Donc, aliénées, c'était quoi? C'était les traumatismes liés au combat. Certains pouvaient avoir été blessés justement au niveau cérébral ou crânien. Mais c'est aussi tous ceux qui ont vécu la souffrance des impacts des conflits, que ce soit des combattants ou que ce soit des civils, et qui se sont retrouvés effectivement complètement déphasés par rapport à ce qui s'était passé. Ce qu'aujourd'hui on comprend mieux, à meilleur titre, que tous les militaires de notre armée aujourd'hui qui reviennent de zones de conflit sont suivis. Et ça, c'est l'enseignement qui a été issu justement de cette Première Guerre mondiale. Mais en tout état de cause, dès qu'on touche au psychique, donc au cerveau, là on part dans des difficultés de compréhension déjà pour soi et de compréhension de l'autre, plus encore. Heureusement, les neurosciences ont fait un bond en avant extraordinaire depuis les années 90, et notamment, je conseille aux auditeurs de choper le tout petit fascicule de Daniel Goleman, à peu près 1000 pages, sur l'intelligence émotionnelle, mais ça se lit quasiment comme un roman, tellement c'est pédagogique, c'est simple, parfois il y a une petite aspérité tout de même, mais t'es arrivé de relire plusieurs fois des chapitres pour vraiment l'apprécier, enfin, quand je parle de l'apprécier, c'est de l'intégrer en fait. Mais c'est hyper riche en termes de compréhension et en fait c'est basé sur des études pratiquées autour du champ des neurosciences et les neurosciences ne cessent d'évoluer, de préciser. Les neurones miroirs, c'est ce que j'appelle la bêtise de Cambrai des neurosciences puisque ça a été découvert complètement par hasard en 2009 je crois, si je dis pas de bêtises, et qui nous permet de comprendre en fait et d'apprendre. Alors comprendre, c'est l'interaction avec l'autre, et d'apprendre, ben, c'est par mimétisme. Puisque la neurone miroir, elle détecte en fait chez l'autre, et puis après, on essaye nous-mêmes de copier. Si je commence à boire un coup d'eau, ça va te donner envie de boire un coup d'eau. Voilà un effet de neurone miroir. Mais plus simple encore, quand on rentre dans une pièce, nous, on a beau être enjoué et compagnie, mais qu'il y a une tension terrible dans le groupe, on ressent tout de suite qu'il y a quelque chose. On ne se
C'est
l'explique
ça.
pas forcément, mais on le ressent tout de suite. Ça, ce sont les neurones miroirs, encore une fois. Et la gestion des émotions, c'est apprendre en fait à distinguer ce qui m'appartient en termes d'émotions et ce qui appartient à l'autre ou aux autres. Ça, c'est le début, c'est la base. Alors, pour en revenir au sujet du handicap psychique dans son ensemble, on fait des avancées effectivement énormes. On arrive maintenant à comprendre que l'autisme, c'est quelque chose, c'est un champ autistique. Il n'y a pas un autiste qui soit pareil qu'un autre. On découvre aussi que les femmes le sont aussi, potentiellement, et on se rend compte aussi que ces personnes ont aussi une interaction sociale, certes différente, mais une interaction sociale quand même. Donc, ce n'est pas les images à la Rain Man, en fait, qui doivent caractériser l'autisme. Il y a tout un champ d'investigation dans ce domaine. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Et il faut surtout se déculpabiliser. Et pour se déculpabiliser, il faut juste savoir demander à l'autre de quoi il a besoin. Tout comme il faut savoir aussi lui dire de quoi on a besoin à soi. Parce que ce n'est pas toujours accepté de l'autre, hein. C'est une interaction sociale. Donc ça, c'est pour le psychisme. On identifie encore aujourd'hui, à peu près, sur ce champ du handicap mental ou psychique, à peu près 1 500 000 personnes. Donc, tu vois, ça, la proportion, en fait, à mon avis, est beaucoup plus basse que ce qu'elle n'est en réalité, notamment avec ce qu'on a vécu des suites des confinements, des incohérences gouvernementales, du fait qu'on soit forcé de rester chez soi et une nouvelle interaction sociale donc du coup qui a été générée. Beaucoup aussi, on l'a vu auprès des étudiants, notamment avec les cours à distance qui ont pareil été forcément une bonne chose, ni même à vivre au quotidien de rester dans sa petite chambre plutôt que d'être en interaction avec les autres. Donc il y a eu beaucoup de mouvements sociaux. Je me rappelle encore de ces cours de récréation où on faisait des carrés au sol pour que les enfants ne sortent pas. En termes d'interaction sociale, il va y avoir des traces. Hein. Ça, c'est clair et net et c'est de plus en plus démontré. Donc, c'est vraiment un champ qui est en pleine expansion. Il va falloir, et en fait, la chance que l'on a autour de ça, c'est qu'on va pouvoir aussi apprécier autrement les différences parce qu'elles vont se démultiplier comme une traînée de poudre. Et qu'il est important du coup de savoir s'y préparer, non pas pour se défendre, mais pour vivre avec. Ça, c'est le premier enseignement souvent pour moi du handicap. C'est prendre le temps et de vivre avec, de faire ensemble. Qu'on soit différent, on l'est tous de toute façon, donc c'est déjà un premier message. Deuxième message, c'est par rapport aux maladies invalidantes. C'est le plus grand champ de représentation sur les 6 familles décrites par la GFIP. Les maladies invalidantes, quand on fait les recensements couplés de l'INSEE et de la GFIP, c'est 47% en fait des personnes en situation de handicap en France. 47%. Dans la population active aujourd'hui, ça correspond à 15% des personnes qui sont actives. Aujourd'hui, 15%. Et à l'horizon 2025, ce que prévoit l'INSEE, c'est 25%. 2025, c'est demain. Hein.
Ah oui.
Alors, les maladies invalidantes, ça se propage. Et puis, alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on n'a pas, en général, une déficience. Généralement, il y en a au moins une deuxième, voire une troisième. Là, c'est en fait, là encore, une extraction des chiffres, parce qu'il faut les trouver, les chiffres. Hein, mais une fois qu'on arrive à avoir ces petites pistes, et moi, je m'éclate justement à aller chercher tous les 6 mois, l'INSEE fait une production justement de certains chiffres sur la population active. Donc, je prends les tableaux, je les analyse. Mais on a une évolution qui est de plus en plus forte dans ce domaine. Et on a aussi donc 2 chiffres qui sont impressionnants. Dans le recensement en fait, des personnes en situation de handicap en France, reconnu, hein, c'est 12 millions de personnes. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est 1/5 ou 1/6, ça dépend comment on regarde. En face, si on fait la même chose, le même recensement, déficience par déficience, donc au travers des 6 grandes familles, on tombe sur 31,8 millions de personnes. Ce sont les mêmes ensembles. Mais ça veut juste dire que pour passer de 12 à 31,8 millions, ça veut dire que généralement, on a 2 voire 3 déficiences pour une seule et même personne. Et ce que j'aime à expliquer au travers de l'accueil de la notion de handicap, c'est que, et là, Dieu sait qu'on me l'a demandé un nombre incalculable de fois, faites-moi un catalogue d'adaptation des postes en fonction de la déficience. Ben non, parce que d'abord, il y a un degré d'impact pour chacune des personnes. Peut être plus ou moins atteint. Là, par exemple, on porte tous les deux des lunettes, on n'est pas en situation de handicap avéré et reconnaissable par rapport à l'administration, puisque c'est compensé et ça ne nous empêche pas de travailler. Mais c'est un handicap tout autant. Léger, très léger, mais c'est un handicap. Donc il y a ce degré d'impact. On peut par contre avoir des glaucomes, des machins, des bidules et des chouettes qui vont vraiment altérer la vue. Et là, pour le coup, il va falloir retravailler l'environnement pour permettre la captation de l'information par la vue. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est le degré d'impact. Après, il y a le degré de ressenti pour chaque personne. Parce que je peux me sentir, une fois équipé, ouais, c'est cool, ah, je vois mieux, machin et compagnie. Si je reprends l'exemple des lunettes. Mais il y a Anne-Sara Kertudo qui a fait un témoignage là-dessus en expliquant qu'elle a caché le plus longtemps possible sa cécité et surtout l'utilisation de la canne blanche parce qu'elle avait peur au départ des réflexions qu'on pouvait lui faire, qui étaient particulièrement, et qui sont d'ailleurs particulièrement ardues à entendre. Et donc, elle a caché le plus longtemps possible, alors qu'elle explique bien, la canne blanche l'aidait énormément. Mais le degré d'acceptation par rapport au regard des autres, c'est encore un ressenti différent. Donc, on a le degré d'impact, on a le degré de ressenti, et ça, c'est par déficience. Comme on en cumule 2 ou 3, En moyenne, eh ben, au final, ben, c'est très difficile d'aller, à moins de faire une Bible non exhaustive et qui évolue à chaque instant, mais c'est juste improbable de trouver systématiquement un cas qui correspond. C'est ça aussi qui fait peur. Et de se dire, mais comment et ça, j'entends souvent aussi, là, pour le coup, je le comprends. Des personnes qui me disent, j'ai peur de mal faire. Parce que je ne connais pas, donc j'ai peur de mal faire. Et ça, je l'entends. Et ma réponse là-dessus, elle est toujours la même. C'est pour ça que je traite de la gestion émotionnelle et du disque dans mes formations sur le référent handicap. C'est que pour pouvoir comprendre l'autre, plutôt que d'essayer de faire à sa place, et ça, c'est un travers que l'on a souvent, c'est de faire à la place sans avoir demandé, en fait, l'assentiment de la personne. Ou est-ce que ça allait lui être utile? Eh bien, c'est de lui demander, tout simplement. Et dès lors qu'on demande, ben, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il était imaginé. Parce que la personne, elle le vit au quotidien. Donc, elle sait en fait ce qu'elle a à faire ou ce qui la limite ou ce dont elle a besoin pour compenser selon les environnements. T'en parlais tout à l'heure. Donc, à partir de là, il y a un nouveau champ qui s'ouvre. Et ce que j'aime bien expliquer quand je suis notamment avec les RH par rapport à leur pratique dans le recrutement, c'est plutôt que d'essayer d'imaginer ce qu'est l'autre, soyez maître et expert de votre environnement, donc environnement de travail, la mission, cadrer correctement la mission par rapport à l'équipe. Une fiche de poste, c'est pas un copier-coller, hein, elle s'adapte à chaque cas et à chaque service. C'est-à-dire que je peux avoir besoin d'un conseiller commercial à Lille ou à Marseille, ben, ça vaut être le même service, la même boîte, c'est pas la même équipe. Et donc, du coup, il va falloir adapter, c'est pas le même environnement. Dans un cas, on pourra faire tout au téléphone, peut-être que dans l'autre, il faudra une voiture, de longue distance ou des courtes distances. Tout dépend en fait de la pratique sur le moment. Donc, il est important d'être expert dans ce qu'on va proposer et d'être serein par rapport à ces propositions pour qu'en face, la personne aussi se sente à l'aise dans l'expression de qui elle est et de ce qu'elle peut. Et donc, du coup, quand il y a, bah, on voit qu'il n'y a pas de raccord là à première vue, ça permet justement d'ouvrir l'échange et de se dire, bon, bah, là, moi, et que le recruteur soit honnête en disant, bah, là, moi, je ne vois pas comment vous intégrer, les compétences, vous les avez. Mais alors là, par contre, dans cette situation-là, qui est vécue, hein, par nos équipes, vous faites comment? Parce que là, je ne vois pas. Et la personne, soit elle est effectivement sèche, elle dit, bah, moi, je ne vois pas non plus, mais au moins, on a un consentement mutuel, donc on sait que bah, là, il n'y a pas. Ou au contraire, elle dit, bah, moi, dans ces situations-là, je fais ça. Ah, mais oui, en fait, on peut faire ça, on a ça, on a ça, on a ça, et on peut mettre en marche. Donc ça, c'est la vision du recruteur avec la personne qui se présente pour un recrutement. Et ce que j'aime aussi à dire aux personnes qui sont en situation de handicap et qui, j'ai encore eu un exemple ce matin avec qui j'ai échangé, qui se posent des questions sur comment ils vont être reçus s'ils parlent de leur handicap. Mais ce que je leur dis, arrêtez de parler de problème. Apportez le problème, posez le problème, clairement, mais apportez vos solutions. Parce que ce qu'il faut que les personnes en situation de handicap comprennent, ce n'est pas que les entreprises les rejettent, c'est qu'elles ont peur de mal faire, souvent. Donc, il faut leur simplifier la vision. Quand on a fa face à soi quelqu'un qui, moi je me remets, hein, 20 ans en arrière, qu'on m'a demandé de vendre la semaine de l'emploi des personnes handicapées aux entreprises, j'y connais rien, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je vais dire n'importe quoi, je ne sais pas quoi faire, je vais certainement mal faire. C'est les projections de nos peurs intrinsèques, hein. Et dès lors qu'on m'a expliqué, ah bah du coup c'est devenu plus facile. Et j'ai pu m'y essayer. Donc il est nécessaire que la personne en situation de handicap soit aussi pédagogue par rapport à qui elle est. Et elle était experte de sa vie. Donc elle peut présenter plus facilement du coup les choses, rassurer le recruteur et lui donner les mots et les actes qui vont lui permettre de valoriser sa candidature. Plutôt que d'aller voir un recruteur en se disant de toute façon il va me bouler. Là, c'est une certitude, hein. Si on projette tu vas me bouler, bah, ce que fait le recruteur, il le boule. C'est les neurones miroirs qui agissent. On y va avec peur, on reçoit de la peur. On y va avec confiance, on reçoit de la confiance.
Ouais, mais c'est vrai que ça rejoint où là on partage, c'est que souvent, ben, voilà, on a peur, on n'ose pas poser la question. Moi, je l'ai vécu auparavant hein, dans un autre métier où j'étais dans les soins et du coup, j'avais beaucoup de personnes voilà, avec une situation de handicap. Et en fait, souvent dans mon entourage, on était surpris en me disant, mais ah, t'as osé poser cette question, t'as parlé de tout ça. Ben oui, parce qu'en fait, ça restait une personne et en fait, il n'y avait pas de sujet tabou. En fait, on parlait normalement, on rigolait, ça reste une personne. Et c'est vrai que souvent, il y a un tabou autour de ça en disant, Ah, mais j'ai peur, même là, quand je l'amène dans Calliope, bah voilà, à dire, bah voilà, lors d'une inscription, c'est important de poser la question, la notion du handicap, si la personne a une situation de handicap, eh ben, ah ben, comment je vais poser la question? Ah, mais j'ose pas, comment elle va prendre? Alors, oui, c'est sûr qu'il y a des personnes où c'est assumé ou non assumé. Ça, c'est vrai que des fois, on a des personnes, on va juste entendre quelque chose. On n'a pas besoin de poser la question parce qu'on va entendre un petit quelque chose. Et on va demander sans parler de handicap parce que ça se sent. Je pense qu'il faut se faire confiance à son intuition. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas. Dire, voilà, j'entends. Et de dire, bah voilà, peut-être, ah bah, voilà, je viens de relever ça sans parler de notion de handicap parce que des fois, ça peut freiner des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce sujet-là et qui ne sont pas toujours aussi prêtes. Tout le monde n'est pas dans le assumé, hein. Tout le monde n'est pas non plus reconnu. Il y en a beaucoup dans cette situation, mais de dire, voilà, je me rends compte qu'il y a ça et quel serait tes besoins par rapport à ça. Et tout simplement, en fait, c'est un échange et les personnes souvent se sentent en confiance après en se disant, bah oui, c'est vrai que tiens, ça pourrait être plus facile pour moi, sentir plus à l'aise. Mais je pense qu'il ne faut pas commencer à se faire des nœuds au cerveau et rester juste soi et se faire confiance et poser la question et on verra. Et puis après, on ne sait pas. Et c'est des échanges et après on continue, mais chaque personne est différente, donc on ne peut
Et
pas
la bonne
prévoir.
nouvelle, c'est que ce que tu définis là, cette prise de confiance, ça s'apprend.
Bah oui.
Ça s'apprend. Alors, à entendre ça de manière énoncée, ouais, il est gentil, ça s'apprend, ça s'apprend. Oui, ça ne s'apprend pas n'importe comment non plus. Mais c'est au travers justement des lectures que j'ai pu avoir sur l'intelligence émotionnelle, sur le développement personnel. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Mais il y a vraiment des moyens, des méthodes. C'est jamais la même pour un tel ou un tel, hein. Chacun a son propre chemin, là aussi, chacun a ses propres souffrances, ses propres rejets en interne. Rejet, abandon, humiliation, trahison, enfin les fameux marqueurs en fait de notre vie, et qu'il faut apprendre à reconnaître, à identifier, pour après s'en libérer petit à petit. Donc c'est vraiment un chemin. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est ce qu'a démontré Daniel Goleman. Autant le QI, lui, il est figé, bouge plus, c'est comme ça. C'est l'intelligence logique et mathématique. C'est une de nos intelligences. Alors que l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence émotionnelle, va permettre, à force d'exercice, à force, enfin, j'aime pas le mot à force en fait, c'est plus on fera, plus on sera à même de se comprendre soi, parce que c'est vraiment un travail d'abord pour soi et avec soi, pour ensuite aller avec de plus en plus de sérénité vers l'autre, vers les autres, sans jugement. Alors sans jugement, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un avis, hein. Ça veut juste dire qu'on ne va pas plaquer notre monde en fait sur l'autre. On ne va pas lui apporter des projections de ce qui nous paraît vrai. C'est savoir aussi être ouvert à la différence, c'est ça, c'est de savoir accepter que l'autre peut avoir un avis différent, une vision différente. Et l'idée, c'est de partager ces visions pour voir justement ben, ce qui est acceptable ou moins, ou qu'est-ce qui peut être modifié ou pas. C'est apprendre la souplesse d'esprit, c'est apprendre l'agilité réellement dans la relation. Ça limite énormément les conflits, hein.
Oui, c'est ça.
Plutôt que d'essayer de défendre son précaré, ça c'est ce qu'on nous a appris depuis la nuit des temps, bah, d'apprendre à s'ouvrir justement à l'autre en confiance. Alors oui, bien sûr, parfois on va se retrouver avec des cas qui ne vont pas nous plaire, mais tant mieux, on va apprendre, c'est ce que disait Nelson Mandela, hein, je perds jamais, hein, soit je gagne, soit j'apprends. Dans tous les cas, de toute façon, même dans les situations difficiles, et le handicap pour moi est un véritable révélateur là-dessus. Ces personnes en fait qui ont une bascule dans leur vie, alors ça peut être de naissance, mais il y aura une autre compréhension du monde, et donc une autre vision, une autre adaptation pour elles. Alors on voit, hein, pour illustrer un petit peu ce que je dis, bah, des personnes comme Philippe Croizon ou Virginie Delalande, qui ont eu chacun, alors Virginie c'était de naissance, Philippe ça a été un accident en cours de vie, il y a eu toute une période de transformation pour autant pour l'un comme pour l'autre. Aujourd'hui ce sont des personnes ultra rayonnantes parce qu'elles ont d'abord fait ce travail vers elles et qu'elles se sont dit eh, merde, moi j'y vais quand même. Virginie est devenue avocate, maintenant elle est conférencière, la première avocate sorte de France. Et Philippe, il a quatre membres en moins, c'est pas grave, traverse la Manche, allez hop, à la nage. Pour nous, ça nous paraît complètement délirant, inaccessible, impossible. C'est comme j'adore cette blague. C'est pas une blague, c'est une réalité en plus, hein. Mais j'adore en fait provoquer dans mes formations ou dans mes conférences sur est-ce que vous seriez prêt à embarquer dans un avion piloté par une personne aveugle?
C'est une bonne question.
Non, mais ça n'existe pas, monsieur Perrault, là, vous délirez complet. Eh ben non, ça existe. L'association s'appelle les Mirovolants sur Toulouse. Et en fait, ils ont une compensation. Alors, bien sûr, ils ont appris, hein, mais ils ont appris en fait à décoller, atterrir et voler. Enfin, c'est pas dans le bon sens. À décoller, voler et atterrir à l'oreille. Ils ont des retours casques en fait qui leur permettent de se situer dans l'espace par rapport justement à la tour de contrôle. Donc, ça demande un environnement, une adaptation, des outils, bien sûr, mais ils volent très bien.
Ah oui, non mais ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas.
Et
C'est
les
adapté.
innovations technologiques dans le domaine, grâce au handicap, elles sont de pléthore applicables ensuite. Là, on voit de plus en plus dans le domaine médical les adaptations des lits pour pouvoir justement permettre aux patients, sans que le soignant ait à lever et à se casser le dos, il y a des aides mécaniques, motrices. Dans l'industrie, on a aussi des applications avec les exosquelettes, donc, qui permettent justement de transformer des. Transporter des charges ultra lourdes avec le minimum d'effort. Donc ça, c'est des avancées plus que positives, même pour la production. Et tout ça, c'est issu justement de la veille sur la qualité du travail, de la veille sur la productivité, tout en regardant aussi, on parle des exosquelettes, il y a le revers de la médaille, c'est que là, on est déjà en train de se poser la question, est-ce que ça ne va pas atrophier les muscles des personnes qui n'auront plus besoin de les utiliser, puisqu'elles seront aidées par la machine? Et donc, il faudra prévoir pour les utilisateurs de ce type d'appareillage, handicapés ou pas, une compensation physique et de prendre le temps de garder justement la masse musculaire nécessaire à l'usage pour leur propre usage. Donc, ce que j'adore dans cette notion de handicap, c'est pour ça que je parle vraiment de notion de handicap, c'est un, il y a un secteur d'innovation qui est juste extraordinaire et une capacité en fait à s'interroger sur ce qui on est, ce que l'on souhaite, de manière plus profonde que ce que l'on a l'habitude de voir dans la société de consommation telle qu'elle est aujourd'hui.
Ouais, c'est hyper intéressant. En tout cas, merci parce que c'est hyper riche et bon, c'est hyper chouette de pouvoir échanger sur ce sujet-là qui, en plus, me tient à cœur. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de. Inconsciemment, je le faisais déjà auparavant, mais forcément, avec tout ce que j'ai mis en place, avec Calliope, etc., de me sensibiliser plus et m'y intéresser de plus en plus et à comprendre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est principalement des fois nous, avec nos peurs, en fait, c'est ce que tu partageais. Où en fait on va pas oser, etc. En fait, mais en fait ça reste une personne avant tout. Et ça, moi, c'est quelque chose qui est hyper important dans, enfin, pour moi et dans ma vision des choses. Donc voilà, je trouve que ça amène aussi une. Ben, c'était peut-être aussi des peurs qu'on a vis-à-vis de nous, du langage, de pas oser,
Sûr.
des non-dits. Mais en fait, non, voilà, on peut faire un échange tout simple avec une personne en face et s'y intéresser. Et en fait, on ne sait jamais la personne qu'on a en face en plus la plupart du temps. On peut être surpris en se disant, bah, on ne pensait pas. Et en fait, elle a un handicap invisible, une maladie, etc. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est pour ça que ce podcast me tenait à cœur, justement, de pouvoir aussi sensibiliser beaucoup plus. Parce que, bah, puis avec la rencontre qu'on avait eue, c'était le fil conducteur, hein, de toute façon.
Bon, en tout cas, merci de m'avoir permis de m'exprimer, de m'avoir offert cette tribune parce que
Bah,
j'avais.
avec plaisir. Et justement, bah, du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu, bah, voilà, si par exemple j'ai une première action que je souhaite me sensibiliser à l'accueil des personnes en situation de handicap, qu'est-ce que je pourrais faire et proposer un peu aussi toi ton, bah, du coup, même si au début tu as présenté ton entreprise et ton offre, mais peut-être parler un peu de ce que tu proposes, ta formation, en quoi ça consiste. Et comme ça, si nos auditeurs sont intéressés, je mettrai le lien pour
Alors,
te découvrir davantage.
pour faire simple, j'ai parlé tout à l'heure de la formation de référent handicap, qui regroupe en fait beaucoup d'éléments, mais enfin qui se tournent autour de l'intelligence émotionnelle et du handicap. Et pour faire simple, en fait, chacune de mes formations s'adapte à chaque participant. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est complexe à transmettre auprès des clients potentiels, c'est quoi le résultat avec quand je fais votre formation? Moi, je ne connais pas le résultat au départ, mais je sais qu'il va être un véritable outil de transformation positif dans chacun des cas. Alors, je pourrais en égrener des centaines hein, pour les avoir vécus et les avoir motivés ou déclenchés. Mais chaque cas, en fait, appartient vraiment aux personnes, parce qu'en fait, c'est vraiment une transcription du manque, du besoin, sur lequel on va faire avec. Donc, c'est vraiment à chaque fois du cas particulier, du cas par cas. Juste avant, en fait, j'étais en ligne avec une personne qui voulait justement que je la forme, que je l'accompagne spécifiquement sur un projet particulier. Je lui ai dit, mais venez sur ma formation de référent handicap. Est-ce que c'est du projet particulier mis en collectif et vous allez vous apporter les uns les autres et moi, je finaliserai avec vous. Et je prendrai le temps de finaliser avec vous jusqu'à l'obtention de mon label. Ça veut dire juste que vous avez l'image, mais cette image, en fait, elle n'est que le reflet de votre investissement et votre plan d'action va illustrer en fait ce que vaut cette image à vos yeux et aux yeux de ceux à qui vous allez communiquer dessus. Donc pour moi, ça c'est vraiment, pour faire simple, l'essentiel c'est de comprendre en fait l'attente des participants, que ce soit pour les formations, que ce soit pour les conférences, que ce soit pour l'accompagnement global sur une entreprise ou une structure publique, de leur cheminement pour l'accueil de la notion de handicap. Si je dois schématiser, en fait, ce à quoi je sers, c'est à changer le regard sur ce mot qu'on ne doit pas prononcer, le handicap. Ça y est, je l'ai fait. C'est de donner, en fait, une autre vision, une autre valeur aussi, mieux comprendre, de se rassurer par rapport à ça. Et c'est ce que je vis, en fait, au travers des conférences que je fais ou au travers des formations que je dispense ou des accompagnements. Chaque cas pour moi est spécifique, mais vraiment, c'est pas que des mots, c'est une réalité. Je passe beaucoup de temps à comprendre ce qui est accessible immédiatement et puis ce que je ressens aussi, parce qu'à force 20 ans d'expérience et d'avoir travaillé, que ce soit avec des grands comptes, des auto-entrepreneurs, dans le public, dans le privé, des situations, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et c'est tant mieux, parce que du coup, ça me donne aussi quand j'écoute réellement. Et je reformule toujours pour pouvoir cerner de plus en plus et voire même découvrir là où ça pêche, là où est vraiment la peine pour la résoudre. Mais je sais pas moi qui vais avec ma baguette magique transformer le truc. C'est la personne avec qui je travaille qui vont être les principaux acteurs de cette transformation. C'est leur transformation avant tout. C'est pour ça qu'en fait, pour faire simple, j'écoute et on met en action. Bien sûr, j'ai des supports en veux-tu, en voilà. Et d'ailleurs, je peux les transformer au gré en fait des formations. L'important, c'est pas le contenu, qui me tient à cœur, c'est ce qu'en feront les personnes qui me feront confiance. Et ce qui a été souvent loué par mes clients, c'est mon écoute et ma créativité. Ma créativité, en fait, elle vient juste de j'écoute. J'ai effectivement une expérience forte. Et donc, du coup, j'ai des déclencheurs. Alors, à chaque fois, ce sont des propositions que je fais. Ce n'est pas des révélations, c'est des propositions. Souvent, ça fait des paillettes dans les yeux des personnes avec qui je travaille. Mais parce que j'ai eu une écoute, j'ai été reprendre deux, trois idées qui me paraissaient les plus accessibles et les plus pertinentes par rapport à la situation. Mais après, c'est de l'accueil qu'en fait la personne, avant tout. Je ne suis pas un grand gourou, je suis juste un élément de transformation.
C'est ça qui est chouette parce que du coup, les personnes qui viennent vraiment dans ta formation et ton accompagnement, ils s'approprient les choses et c'est plus simple pour eux après de mettre en place au quotidien. Et c'est quelque chose de fluide qu'on n'a pas besoin de se dire. Ben voilà, on sait ce qu'on va faire, comment on va le faire et avec la touche de l'entreprise, notre propre touche. Et du coup, je trouve que ça amène beaucoup de possibilités. Donc, c'est hyper riche. Puis avec le groupe, ça peut créer aussi un échange, un groupe de pairs un peu qui reste en contact.
Et qui se complètent, qui se motivent les uns les autres, qui se donnent effectivement des retours. Moi, c'est ce que j'adore. Je préfère d'ailleurs les inter-entreprises, justement quand ils viennent d'horizons complètement différents et qu'ils vont avoir en fait un socle qui est effectivement la formation du référent handicap, par exemple. Ils sont souvent étonnés en fait de tout ce qu'ils apprennent au-delà des supports. Mais juste parce que je laisse la parole assez libre, pas complètement, mais assez libre, il faut quand même qu'on avance dans le programme, mais je dépasse souvent, même si j'ai prévu 2h30 de formation, on est plutôt sur 3h parce qu'il y a de l'échange, parce que pour moi, la matière, la vraie matière, c'est celle qui se partage, parce que ça, c'est une de mes valeurs profondes, entre les différents participants. Et l'éclairage de l'un va apporter de l'huile à l'autre, et ainsi de suite. Et les formations que je déploie ont toutes un même objectif, c'est que chacun s'approprie être pour faire et enfin avoir. Et dans ce sens-là, pas l'inverse. C'est d'abord, ils viennent pour une raison, pour quelque chose qui les touche. Et si ce n'est pas encore clair, je vais les aider à éclaircir. Après, on va faire le plan d'action. Et ce plan d'action va être le reflet de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et après, ils auront effectivement la rançon de ce qu'ils ont mis en place, naturellement, parce que ça a du sens, parce qu'ils se motivent, parce qu'ils sont effectivement entourés, parce qu'ils savent où s'appuyer quand il y a besoin. Et j'en fais partie de ces ressources, parce que je lâche jamais mes apprenants. Il suffit qu'ils me demandent, et si j'ai la réponse, bien entendu, je leur donne. Ça fait partie en fait d'un tout. Moi, pour moi, une formation, c'est juste un élément de transformation et un accompagnement qui est à vie en fait. C'est pas, ça se rate pas à la formation. Moi, je vois vraiment la formation comme une transmission et une transformation.
Ah, mais c'est chouette, ça se ressent et ça donne envie en tout cas. Bon, je te l'ai déjà partagé de toute façon. C'est un projet et j'espère en tout cas que ben, du coup, ça a peut-être justement impliqué nos auditeurs et les sensibiliser déjà parce qu'au vu de tout l'apport, il y a déjà une belle sensibilisation qui est effectuée. Ça permet aussi d'ouvrir le champ des possibles et le champ d'intégration dans un premier temps. Mmh. Et après, je pense que c'est vrai que c'est toujours en deux temps régulièrement, mais après, voilà, si vraiment il y a les besoins pour aller en formation, etc., je mettrai du coup tes coordonnées pour partager. Avec grand plaisir. Et
Tu prennes contact avec plaisir. J'adore discuter, tu vois, ça se voit à peine.
Oui, voilà, non, c'est ça. En tout cas, j'invite vraiment mes auditeurs à contacter Benoît. Il y aura le lien sur la vidéo et c'est vraiment un plaisir de nos échanges et de notre collaboration. Donc, voilà, de tout ce qui se passe. Je vous conseille fortement, c'est vraiment chouette. Donc, beaucoup de simplicité, c'est très bien. Et puis, des sujets sans langue de bois, et moi, ça me va très bien. donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites ajouter que tu n'as pas forcément partagé? Bon, c'était assez complet, moi, je n'ai pas d'autres questions.
Ah, évite de me relancer parce qu'on est reparti pour une heure.
Bon, attends, en un mot, un pop-up. Ce qui est chouette, c'est que mon podcast, ce thème, c'est aussi, qui est aussi de la bonne humeur. Donc là, pour le coup, bon, il y en a.
Il y en a. Il n'y a pas que ça, mais il y en a.
Quand je suis toute seule, c'est un peu... Ah, il y a de la bonne humeur, mais bon, je n'attrape pas forcément à rire toute seule. Mais ça pourrait arriver.
Ça pourrait.
Non, mais si vraiment il y a quelque chose, en quelques mots,
alors,
si
tu as quelque chose à ajouter. La seule information, c'est que là, je suis en attente de mon planning de conférence, justement, sur les deux mois à venir, octobre et novembre. Donc, je n'ai pas encore calé en fait la prochaine session de formation sur le rôle et les missions du référent handicap, qui est celle que je fais à peu près tous les deux mois. Donc, soit ça commencera début novembre, soit ça commencera début décembre, mais en tout cas, c'est la prochaine session est proche, c'est dans un mois.
Ok. C'est combien de jours du coup?
Alors, c'est pas des jours, c'est des demi-journées en fait. C'est soit le lundi ou soit le mardi matin, chaque semaine pendant 8 semaines. Là, ce sont pour les classes virtuelles qui durent 2h30. Bon, officiellement, qui dure 2h30, on va plutôt le dire comme
mais
ça.
Mais tu es généreux.
Voilà, c'est ça. Et mes participants le sont tout autant, hein, parce que je leur colle le virus direct. Hein. Ensuite, pendant ces deux mois-là, donc c'est 8 semaines exactement, il va y avoir toute la construction de leur plan d'action. Donc, il n'y a pas que la classe, hein, il y a ce qu'il y a à faire en parallèle.
Oui, la pratique, oui.
Voilà, la mise en œuvre, l'élaboration de leur plan d'action que j'accompagne en fait pendant ces 8 semaines. Il y a aussi 6 modules en e-learning pur. C'est là où en fait, ils vont pouvoir aller découvrir à leur rythme le champ des déficiences, parce que je sais que pour certains, ça peut être, c'est pour ça que je les ai mis en e-learning, pour certains, ça peut être un peu problématique justement de le faire en direct. Parce que ça peut toucher, ça peut éveiller, ça peut... Enfin, donc, du coup, j'ai fait des modules e-learning pour que chacun soit vraiment tranquille dans cette partie-là. Et pour autant, c'est une connaissance nécessaire de base. Ça permettra après de travailler sur le reste, mais c'est pas une vérité absolue, c'est juste une découverte. Et alors, à l'issue de ça, après ces 8 semaines-là, ben, il y a 2 fois 1 heure consacrée justement à la finalisation du plan d'action. Donc là, c'est la personne avec moi. Donc, elle me soumet 48 heures avant, en fait, son plan d'action. Moi, je l'étudie. On se voit 48 heures après en visio. Et on regarde, justement, ben, ce qu'il y a, déjà, ce que moi, j'aimerais voir en plus ou voir corriger, ou les idées que ça m'a donné par rapport à ce qui a été présenté, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a généralement une deuxième heure, c'est que j'ai toujours un truc à dire. Ça m'arrive, remarqué une fois. J'ai rien eu à dire. C'est récemment, là, au mois de juillet. Nino m'a sorti un plan d'action de ouf. J'avais jamais vu ça. Que là, dès le premier, c'était OK, nickel. Rien à dire. C'est parfait. Voilà. Donc, mais en tout cas, il y a au moins une heure plus une heure pour pouvoir aller au bout. Moi, ce que je recherche, en fait, avant tout, hein, c'est ce qui va la raison d'être du label, c'est qu'en fait, je ressens réellement une volonté d'y aller et pas simplement prendre le plan d'action, ça y est, je l'ai eu, hop, je le mets dans le
Ouais.
tiroir. Non, je veux vraiment, en fait, sentir que les personnes sont concernées, elles ont envie d'y aller. Et ça, c'est mon boulot de les emmener, en fait, à se découvrir elles-mêmes et à se rassurer pour avoir envie d'y aller, qui est d'un intérêt vraiment de fond. Pour certaines, en fait, j'en ai aussi qui ont besoin de plus de temps pour tout ça. Donc, les 2 fois 1 heure sont dépassées depuis longtemps, mais je suis toujours là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que
OK.
je ne lâche pas mes apprenants comme ça, mes participants, je vais avec eux, en fait, les accompagner petit à petit, jusqu'à ce qu'ils se sentent suffisamment en sécurité pour pouvoir se dire, ça y est, je peux y aller, là, c'est tranquille, c'est bon, j'ai tous les repères.
Non, mais c'est chouette parce qu'en plus, ce format que tu proposes, je trouve que ça permet aussi de pouvoir continuer à travailler, voilà, de prendre une matinée, c'est plus facile. En même temps, du coup, ça permet aussi de faire régulièrement sur du long terme, d'avoir en même temps la mise en œuvre, travailler sur son projet. Donc, je trouve ça hyper intéressant et voilà, je trouve que c'est pratique quand on est salarié, indépendant, formateur, etc.
Oui, ça touche tout le monde, hein, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on me l'a souvent dit, c'est que cette formation-là a plus des connotations de bilan d'orientation, de réorientation professionnelle ou de bilan de compétences, avec un apport forcément qui est lié au handicap, mais c'est vraiment travailler sur le projet de chacun, en collaboration aussi avec les personnes du groupe. Je trouve à chaque fois merveilleux, c'est l'émulation justement qui se passe en fait au travers de chacun de ces groupes. Et des projets qui en sortent, c'est juste, moi je suis à chaque fois étonné et surpris, mais dans le bon sens du terme, même pour des personnes qui arrivent en se disant, mon projet est pas clair, je sais pas trop, je vois pas trop l'intérêt, puis quand même, on en discute, bon, ok, d'accord, je vais y aller, ben, 8 semaines après, ouais, c'est bon, c'est cool, je suis à l'aise, je sais ce que je veux faire et comment le faire. Et ça, ce sont mes cadeaux, enfin, c'est mes petites pépites, en fait, que je gagne, en fait, à chacune des formations.
Ouais, en tout cas, c'est vraiment chouette et c'est un beau partage. Donc, bah voilà, moi j'ai pas de questions complémentaires, c'est clair. Il y a eu beaucoup d'éléments, beaucoup de
Il y en a.
transmissions. Donc, merci à toi pour voilà,
Merci
je
à toi.
parlais de générosité, donc pour ta générosité, ton partage. Puis je relaie hein, les informations et au plaisir de se retrouver en tout cas.
Et ben avec grand plaisir, de toute façon, on va continuer à se croiser, ça c'est sûr et certain.